Je vais parler en fait, je vais pas montrer des brouillons à moi, parce qu'en fait tout, j'ai fait des recherches, j'ai fait maintenant mon doctorat en philosophie, et en fait tout ce que j'ai produit pendant les processus d'écriture, après je jette, alors je n'ai rien en fait, c'est ça, mais quand même, en fait, je m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai choisi de montrer, de parler en fait sur mon mémoire, parce que en fait c'est à la fin j'ai étudié pas mal des projets et des brouillons, des dessins, des choses comme ça, mais en fait la question c'est pas exactement celui-ci. Et mais bon, je vais expliquer surtout comment, pourquoi je suis venue vers là. Bon. C'est un texte que j'ai écrit en 2010, ça fait un peu de temps. Et en fait, pour expliquer en fait pourquoi je suis allée vers les sujets de mon mémoire, c'était en fait là, à l'époque, je faisais mon master en cinéma, mais j'ai étudié un peu par hasard, pour curiosité, en fait, des choses en architecture qui n'avaient rien à voir avec ce que j'étudiais en master. Mais bon, et en fait, j'ai tombé vraiment par hasard sur un texte qui s'appelle L'architecture des vers, qui c'est d'un écrivain allemand qui s'appelle Puschbach. Et bon, il a écrit en 1914 ce texte. Et en fait, c'est un texte qui s'est composé de plusieurs fragments, et il y a un peu, on peut peut-être les prendre un peu comme un manifeste. Et en fait, il fait tout un éloge, en fait, du vers. Et ce qui m'a étonnée, en fait, dans ce texte, c'est qu'il mélange, d'un côté, des explications très pragmatiques, en fait, il donne des raisons pourquoi on devait utiliser les vers pour construire même des usines, des bâtiments, des logements, des transports, tout ça. Il donne par exemple, il dit en fait ça, c'est bien parce que ça fait entrer la lumière, c'est bien aussi pour chauffer les espaces, etc., etc. Il donne des raisons comme ça. Mais quand même, il y a une autre dimension de son texte, qui c'est en fait qu'il attribue en fait des significations spirituel, métaphysique, au vert, il dit en fait qu'il est, en fait, tout, si on allait vers cette sorte d'architecture des vers qui allait couvrir toute la surface de la Terre, on allait en fait construire une nouvelle civilisation. C'est la civilisation du vert. Alors, il y a tous ces côtés utopiques en fait, qui c'est vraiment fort dans son texte. Mais en même temps, il est à ses côtés que c'est un peu plus pragmatique, un peu plus bon. Et en fait, ce texte m'a étonnée vraiment. Et j'ai commencé à voir ce qu'on faisait à l'époque, dans le sens quelles étaient les expériences avec le vers, et pour savoir un peu si avec qui il dialoguait, qu'est-ce qu'il avait en tête en fait quand il parlait de cette architecture. Et en fait, on avait pas beaucoup d'expérience avec les vers, même si on pouvait déjà construire avec faire des parois en verre, tout ça c'était possible à l'époque déjà, mais on ne faisait pas beaucoup en fait. Et bon, il avait ça et pas de plus. Oui, en fait c'est ça, c'est ça. Et après j'ai vu aussi qu'il s'est inspiré de quelques expériences, blablabla. Après je vais montrer tout ça, mais bon. Et en même temps, il avait un autre côté qui m'étonnait aussi dans ces textes, que c'était en fait cette civilisation en vert. À mon avis, on est arrivé là, parce qu'il y a, en fait, l'utilisation de verre est devenue vraiment quelque chose de très puissant. On va commencer à construire à partir des années 60, en fait, plusieurs bâtiments en verre. Et de plus en plus, toujours, on attribue Si vous allez voir les discours des architectes au moment qu'ils utilisent les verres, il y a toujours une charge, soit sociologique, je ne sais pas, sociale, en fait, c'est pas sociologique, sociale, dans les sens, par exemple, une sorte de défense de la démocratie, parce que les verres, c'est, en fait, c'est l'accessibilité visuelle, il y a ce côté, en fait, des horizontalités, et des juxtapositions, des images et tout ça. Et bon, c'est ça, toujours les verres, ils fonctionnent un peu comme une sorte de catalyseur des choses qui ne sont pas des attributs matériels, c'est ça. C'est ça qui... Oui, ce sont des choses qu'on attribue à lui. Et en fait, c'est étonnant parce que les verres, en même temps, il y a ce côté que c'est vraiment neutre. C'est un matériel, si on peut dire... C'est un peu même ce que Benjamin aussi il dit, c'est un peu les tables rases en fait. Parce que tu n'arrives pas à laisser des traces sur les verres. En même temps, il n'a presque des temps, il n'a pas d'histoire, il n'a rien en fait. C'est ça, c'est une surface un peu neutre. Et bon, tout ça en tête, je devais faire mon mémoire en cinéma. C'était plus loin de tout ça, oui. Et en fait, j'ai commencé à me dire, bon, il y a tous ces côtés de la transparence, de la lumière, etc. Et j'ai commencé à chercher des bouquins en cinéma qui parlaient de la lumière. Et un des premiers bouquins que je suis allée, que j'ai tombé, en fait, c'était un des Jacques Monk. C'est un petit livre qui s'appelle « L'attrait de la lumière ». Et en effet, c'était complètement étonnant. Oui, c'est ça. En fait, il y a une chose qui m'a frappée vraiment dans son livre. C'est en fait, premièrement, c'est son approche très moderne. C'est un bouquin de 2010, pardon. Et en fait, il a une approche. Il fait comme les modernes dans le sens, il veut définir. Qu'est-ce que c'est le cinéma à partir de l'idée d'un médium spécifique, dans le sens je vais chercher un attribut physique de support pour dire ce que je fais dans le sens des disciplines. C'est un peu ça, c'est un peu la démarche moderne en fait. Mais c'est incroyable qu'il écrit ça en 2010, qu'on a déjà passé, on a déjà déconstruit beaucoup cette façon de s'approcher des arts, en fait. Actuellement, on parle des interdisciplines, des intermédiaires, etc., etc. Bon, c'est ça, il avait ça. Et en fait, ce qu'il trouvait, si je peux dire, comme les médiums spécifiques dans les cinémas, c'était la lumière. C'est ça. Alors, il dit une chose que c'est un peu... Pour moi, c'était vraiment étonnant parce que c'est pas une défense de la pellicule dans le sens qu'il met ça en perspective. Il dit à la fin, bon, la pellicule, c'est la meilleure façon de faire le cinéma. C'est pas ça. Il dit comme si, en fait, on faisait aujourd'hui seulement des films ou des cinémas avec la pellicule. Il dit ça que c'est... en fait, il faut... c'est avant. Oui, c'est ça. Et oui, le cinéma a commencé et commence à chaque nouvelle image par la captation et l'inscription d'une lumière. Et après, il dit il faut de la lumière pour que quelque chose s'inscrive sur une pellicule impressionnée, développée, montée, soit vue par ses spectateurs. Alors, et c'est ça, il dit d'une façon très catégorique, je peux dire, que le cinéma est fait à partir de cette liaison directe avec la lumière, en fait. Et il y a tout ce, et en fait, cette lumière, la rencontre de la lumière avec cette matière qui fait résistance à la lumière, c'est ça. Et bon, ça, pour moi, cette façon ontologique, en fait, de concevoir, en fait, les cinémas, c'était étonnant pour moi. Et bien sûr, c'est quelqu'un de très intéressant que je sais, bien sûr, qui il connaît tout ce qui se passe dans les sens des productions au cinéma et pourquoi il disait ça à ces moments-là. Mais en fait, après, il a une petite phrase.
2010,
oui. Et qui c'est, il dit, c'est comme si, dans un moment donné, dans son texte, après qu'il a fait tout un éloge de la lumière en disant que le cinéma commence par ça, blablabla, bla, 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 il revenait, il disait, même, je sais, bien sûr, qu'aujourd'hui, on peut faire le cinéma avec des caméras digitales, je ne sais pas quoi, blablabla, bla, mais il revient, il fait comme un petit, comme je peux dire, retour sur la question, mais c'est toujours une manière de défendre son point de vue, il dit, mais il reste toujours, pour ma génération, les modèles, au moins fantasmatiques, de la pellicule qu'on maîtrise de la projection. Il reste toujours la fiction d'une matière d'image. Alors, quand j'ai vu ça, je me dis, c'est incroyable comment aider, en fait, cette idée des fictions d'une matière d'image. On peut, en fait, c'est ça, on peut avoir une approche des productions cinématographiques, et même si on ne fait pas plus ou pas seulement avec les caméras, l'impression de la lumière sur les pellicules et tout ça, on a toujours en tête cette idée du cinéma, comme je peux dire, lieu et faite à partir de cette rencontre, en fait. Et bon, j'avais cette phrase-là et je me dis, en fait, en revenant sur l'architecture des verres, je me dis, mais c'est incroyable parce que c'est presque la même chose de l'architecture. Dans le sens, il y a toujours cette liaison directe, en fait, entre l'idée d'image, de l'image qui est construite à partir de ces jeux entre matière et lumière. C'est un peu la même chose. Et surtout... Et comment je peux dire, je pensais en fait déjà que dans le domaine de l'architecture, c'était tellement fort cette liaison avec les verres. Les verres, en fait, les verres étant travaillés par la lumière et tout ça, je me dis peut-être il a une sorte de régime d'image lumière, je définis comme ça, qu'on a rêvé. Et on a fait des expériences de cette image lumière qui dépasse en fait les domaines du cinéma. En fait, on peut trouver exactement des expériences avec l'image lumière en architecture, par exemple, mais pas seulement en photographie, en sculpture, tout ça, je vais montrer après. On a parlé beaucoup de cette image lumière, mais sans la définir en tant qu'image lumière. C'est un peu ça. Et en fait, mon hypothèse, c'est un peu ça. En fait, c'est Giacomo, en 2010, il continue à dire que le cinéma est né à partir de cette rencontre entre pellicule et lumière, parce qu'en fait, il fait écho à cette utopie attribuée à l'image lumière, qu'on a créée en fait pendant plusieurs années, depuis la fin du 19e siècle. C'est un peu ça. C'est un peu fou comme hypothèse, mais ça me plaît beaucoup. Oui. Et en fait, bon, je vais montrer un peu ce que j'ai fait dans les textes, vraiment. Et bon, pour construire cette fiction, pour reconstruire cette fiction, j'ai gardé cette idée vraiment des fictions, dans le sens, c'est ça, c'est pas seulement matériel, c'est pas seulement, c'est un ensemble des choses, c'est des envies, des désirs, des utopies qu'on a créées autour de ça. C'est un peu ça, c'est pour ça que j'ai gardé les mots fiction, en fait, et qui mélangent, bien sûr, des travails avec la matière, mais pas seulement. Et bon, pour recréer cette fiction de l'image lumière, j'ai réparti, en fait, là, j'ai divisé mon mémoire en trois parties et en fait j'ai pensé à trois manières que cette lumière elle se présente, en fait trois approches de cette lumière. Et en fait, j'ai commencé par des filtrages. Et cette idée des défiltrages, de filtrer la lumière, de capter d'une certaine façon, mais pas forcément en la fixant. Et en fait, j'ai ce premier chapitre, j'ai dédié tout à l'architecture des verres. Je vais montrer quelque chose, parce que je pense que c'est bien. Bon, pour raconter un peu l'histoire de l'architecture des verres, c'est ce premier chapitre. Et on a, comme je dis, je suis allée vers tous les possibles, comment je peux dire, les possibles expériences sur à partir desquelles auxquelles en fait qui Chibar pensait au moment qu'il écrivait son manifeste en 1914. Alors, il y a une chose que je découvrais à l'époque, c'est les rénovaux de vitrail, en fait. C'est une chose... C'est pas ici, non? Ouais, désolé. Non, c'est pas ici. Oui, en fait, il y a ça, il y a William Morris, c'est ici. En fait, il y a un important rénoveau de vitrail, je vais montrer très rapidement. On essaye de... Premièrement, ce renouveau, c'est lieu en fait à l'idée des patrimoines, en fait, qui est né au 19e siècle. Alors, premièrement, on essaye juste de refaire les vitraux qui existaient déjà. Mais William Morris, qui était un important... comment dire anglais en fait, et il a essayé de faire des autres motifs, des parties des autres images, et aussi il a même fait des vitraux à partir des tableaux des artistes modernes comme Lautrec là dans cet exemple qui s'est mis ici par exemple. Ouais. Ça. Ah. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Tout est clair. S'il vous
plaît, s'il vous plaît. Attention.
Ok, désolé.
Voilà.
Merci. Ouais. Alors, il y a un autre que j'ai. Une autre expérience qui est très importante du 19e siècle, c'est les Crystal Palace de Paxton, en fait. Et c'est pas ici non plus. Désolée. Et c'est ici. En fait, c'est un pavillon créé en 1951 pour l'exposition des grandes expositions. Et en fait, c'est ça, les principes, c'est un peu démontrer, faire une sorte d'éloge de la performance industrielle, tout ça. Et bon, il avait toujours beaucoup de marchandises exposées, tout ça. 1851. Mais en fait, c'est... il avait... Cette image, ça montre bien. Il avait ça, les témoignants de l'époque, les témoignages de l'époque. Et c'était surtout sur l'idée qu'on perdait des vues. En fait, on n'avait pas des repères. Et que les gens se perdaient dans cet espace. Il avait toujours cette idée, un peu, comme je peux dire, d'une expérience de l'espace. Vraiment différent de tout ce qu'on avait vu jusque-là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça la question. Bon, c'est juste une parenthèse, mais c'est ça. En fait, il y a toujours cet éloge en disant on n'avait pas de repères, mais bien sûr qu'il avait des repères, que c'était la marchandise. En fait, c'est le même principe en fait comment on dit, c'est j'ai oublié même en portugais. Bon, c'est non, vitrine.
Vitrine,
oui. C'est le principe de la vitrine, en fait. Tu exposes en fait la marchandise, tu la mets en recul, tu donnes l'accès direct visuel. Alors tu fais un appel au visuel, mais la main, c'est pas touchable du tout. Alors c'est cette jeu des distances et proximité en fait qui est là, bien sûr, mais quand même il y a aussi cette autre dimension qui c'est vraiment une dimension, si je peux dire, des nouveautés, d'expérience de l'espace, que c'est super intéressant, des juxtapositions d'images, c'était pas, c'est quelque chose de vraiment bien. Alors il y a tout ça et quoi de plus, ok. Et bon, il y a les vitrales, comme j'ai dit, il y a cette expérience. Bah, ça, c'est Matisse, c'est après, mais c'est aussi un autre exemple des vitrales aussi. Les renouveaux des vitrales, un peu plus tard. Oui, ah, en fait, bon, toujours dans mon miroir, mon mémoire, j'essayais de revenir sur la question du cinéma. Alors, une des proximités, c'était par exemple. Ces constructions en verre, on va voir dans les premières studios. Je vais trouver là, je ne me rappelle plus où elle est. Non, c'est pas là. Ah, il y a ça. Bon, Black Age, désolé. En fait, c'est ça, ce film-là s'est inspiré aux vitraux des Chartres. Chartier-Iris, ça s'appelle. Bon, c'est juste une petite passage, je ne veux pas. M'arrêter là, mais on voit des échos en fait au cinéma toujours avec ces images créées à partir de cette organisation, si je peux dire, faite par les verres de la lumière, ces filtrages, ces sortes de jeux d'interaction entre les verres et la lumière. Mais bon, et ces constructions des verres, on voit, donc, par exemple, là, le studio de Méliès, c'est 1897, là aussi. Alors, il y a un autre source importante, c'est en fait Bruno Taut, qui c'est un contemporain à Chibar. C'était une personne très proche, il faisait aussi partie, si on peut dire, un peu de mouvement expressionniste allemand. Et lui, il était architecte, vraiment, parce que Schubert, il était juste écrivain, il disait des choses sur l'architecture, mais vraiment, il ne comprenait rien de ce qu'il parlait. Mais, mais quand même, il a donné des idées, de bonnes idées. Alors. Et Bruno Taut, il crée cette maison en verre qui c'est aussi une sorte de pavillon. C'est le même principe des Paxton, mais des tailles petites en fait. C'est appelé maison vraiment, mais en même temps ça c'est très proche déjà des dimensions un peu des ça c'est un peu un temple, mais c'est quand même déjà une sorte de premier essai du verre, en fait, avec la. Ouais. Du verre dans la dimension de la maison. Parce qu'il y a ça que c'est important, que c'est en fait les verres jusqu'à début du XXe siècle, il était employé, mais il était employé dans les gares, dans les passages, des choses comme ça. Il était vraiment. Lieu en fait à cette performance un peu agressive de l'industrie, c'était une manière de montrer qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans le sens des constructions, des bâtiments, tout ça. Mais dans cette dimension plus intime, on n'arrivait pas à faire des essais en fait, même avec des acis, aussi tous ces matériaux un peu nouveaux en fait, on avait une sorte de rejet. Et c'est intéressant parce que c'est ça, les vers au début, les gens rejetaient, mais après, on va attribuer tellement des significations aux vers qu'on va l'employer partout, en fait. Et Bruno Tauto, c'est un architecte contemporain à Chibar, et il conçoit cette maison des vers. Et qui, en fait, il y a des inscriptions, même des phrases, on voit des petites phrases du manifeste de Chibar, là, en fait, en faisant des éloges, comme l'architecture des vers va nous amener à une nouvelle civilisation, etc., etc. Et bon, ça, c'est un croquis. Là, on voit comment ça, c'était pour l'intérieur. Et il avait cette chute d'eau aussi. Mmh. Très, très beau. Alors, il y a tout ça.
Ça, c'était... Ah.
Oui. Et en fait, c'est Bruno Tauto, comme à Chibar, c'est un peu le même principe, parce que même s'il a arrivé à construire vraiment quelque chose, parce que, oui, il a cette différence, mais quand même, ça reste comme une sorte de prototype, en fait, à mon avis, parce que Il est vinculé à tous ces contextes, à cette attente, en fait, d'une nouvelle civilisation. Il voulait être une sorte de... C'est un exemple de ce qui pouvait devenir un monde entièrement construit en verre, c'est ça. Il y a tellement des significations qui sont hors de la construction elle-même qu'on peut dire que ça reste en tant que prototype, en fait. Donc, vinculé avec tous ces mondes autour. Alors, bon. Bon, il y a Saint-Élie, c'est déjà un futuriste. Et dans son manifeste aussi, il fait tout un éloge au vert. D'une façon un peu différente, parce que en fait Bruno Tauto, il est très mystique, il a une signification, les vers bruits, c'est les cristals, il travaille aussi avec la couleur, que c'est pas quelque chose vraiment que Saint-Élie va s'approcher, en fait. C'est un peu ça, c'est un peu plus saturé, en fait, cette construction. Quand même, il y a... Alors, il y a tout ça. Il y a des architectes modernes, comme Walter Gropius, Duisburg, Mies van der Rohe, qui c'est un classique dans le sens d'architecture de verre. Il a fait pas mal de choses. Bon, ça, c'est Walter Gropius. Dans une phallus.
Dans une des quoi?
Agus. Ah. Tu dis dans le cerveau. Oui, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est là. Oui. Après, il y a, bon, les pavillons d'Allemagne, qui c'est une construction des Mies van der Rohe, qui c'est vraiment aussi notre paradigme d'utilisation des verres en architecture et tout ça. Bon, ça, j'ai entré... Je ne m'ai pas parlé beaucoup des Duchamp parce que c'est un peu lourd, je pense. non, c'est trop, en fait. Mais en fait, il a ses côtés. Et en même temps qu'il a une sorte d'utopie autour du verre, il a les critiques, bien sûr, du verre qui sont là, sont en même temps, mais il rigole un peu de toute cette histoire des vers et civilisation et nouvelles formes de sociabilité urbaine, tout ça. Et bon, il y a cet exemple, je pense que c'est le plus intéressant pour l'instant, c'est d'Eisenstein. En fait, c'est un projet, il a eu des grands projets, c'est le Capital, en fait, qu'il n'a pas fait. Et ce film-là, qui s'appelle Glass House, et en fait, il est vraiment inspiré à parler de l'architecture des verres. Il donne d'exemples même des Mies van der Rohe, par exemple, des gratte-ciel, des choses comme ça. Et en fait, il voulait faire ces films-là dans un bâtiment entièrement fait en verre, Et il a deux côtés dans ses projets. Lui, c'est vraiment un projet qui, sur lequel il revient à plusieurs reprises pendant sa vie. Et il y a un côté qui est un côté vraiment critique, et qui c'est, en fait, l'histoire, pour raconter un peu, c'est les gens habitaient, c'est un bâtiment tout en verre, tout fait en verre, et les gens habitaient là sans savoir en fait, ils étaient dans un bâtiment transparent, qu'ils pouvaient voir les voisins et tout ça. Ils habitaient normalement, ils faisaient les choses, blablabla, jusqu'à un moment où quelqu'un arrive, il dit, en fait, regarde, vous pouvez voir ce qui votre voisin est en train de faire là. Alors, ça change tout parce que les gens commencent à se surveiller en fait. Et ça devient, ça s'instaure, une sorte de climat panoptique. Les gens commencent Oui, exactement. Les gens savent tout ce qui se passe partout et tout ça, jusqu'à un moment où quelqu'un se suicide, je ne sais pas quoi. Ouais. C'est un peu. Alors, c'est ça. Et la critique, c'est bien clair. C'est vous voulez en fait instaurer une nouvelle forme de sociabilité sans faire des vrais changements sociaux. Je voulais juste faire construire un bâtiment, mais la mentalité des gens va continuer la même. Et on va faire une utilisation perverse tout de suite de ce qu'on fait, de la construction en verre. C'est un peu ça, mais quand même, il y a une fascination de sa part pour l'architecture des verres, et c'est beaucoup lié à le côté formel, en fait, parce qu'il y a ça dans ce dessin, c'est lui, on voit, il voulait vraiment exploiter des prises de vue inattendues, faire des superpositions des images, tu peux avoir plusieurs couches d'actions en fait qui se superposent en faisant juste une prise de vue sans.
T'as ce film.
Quoi?
T'as ce film.
S'il y a. Non, il ne l'a jamais fait.
Ah non.
Non, non,
c'est
pas ça.
Projet.
Non.
C'est un projet. Parce qu'il a, oui, c'est vraiment sur le cheveu.
Oui, il a un autre dessin, il est là. Là aussi. Alors, ça, c'est l'exemple, je pense, les plus importants des critiques. Il y a aussi Dan Graham. Bon, je ne vais pas parler parce que sinon, ça va être un peu. Bon. Alors, la deuxième partie, après tout ça, de l'architecture des verres, j'ai passé à l'idée des fixations, des captures et des inscriptions de la lumière. C'est un chapitre, c'est un peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis d'accord maintenant, mais bon, je vais raconter un peu. En fait, c'est ça, je reviens un peu sur l'idée indicielle, là, des basans, en fait. C'est cette idée toujours des masques mortuaires, les images, en fait, l'attribuent un peu. Comment je peux dire comme les buts, l'attribut comme but des images techniques, comme des. En fait, pour lui, toutes les images sont faites à partir de ça, que c'est de retenir les traces de quelque chose qui est là et qui va disparaître. Forcément, c'est pour ça que ça devient un peu masque mortuaire. Et en fait, il y a ces côtés aussi dans le sens de la lumière, de l'interaction entre lumière et matière. Il y a toujours cette trace de quelque chose qui disparaît. Alors, la lumière, elle laisse une trace, mais elle disparaît à la fin. Bon. Bon.
Je n'ai pas très d'accord. Non, pourquoi ?
Non, c'est parce que non, je n'ai pas d'exemple. Bon, je ne sais pas, je vais montrer. Mais en fait, je ne sais pas. C'était un peu penser l'image empreinte. Ces liaisons-là que je viens de dire, que c'est un peu des indiciels, en fait, matériels indiciels dans le sens littéral et aussi dans le sens figuratif. Et bon, il y a, je commence là par Mohamed Nadji, en fait, il fait toute une défense de l'image, du photogramme, en fait, il fait une défense de cette inscription directe de la lumière sur une matière. il dit en fait qu'on on utilise très très mal les nouvelles technologies techniques pardon et des reproductions des images techniques en fait et dans le sens qu'on on utilise la les, par exemple la l'image photo pour en ayant en tête une fonction un peu objective. Alors, c'est de reproduire les choses de manière réaliste, en fait. Et il dit que ce n'est pas les côtés les plus révolutionnaires, en fait, de ces images techniques. C'est vraiment cette interaction entre la lumière et la matière. Et lui, il va faire pas mal des photogrammes, en fait. Et ici, j'explique un peu les plusieurs essais des photogrammes. Il y a, par exemple, des Christian Shade, en fait, qui c'est un peu lié à collage dadaïste et tout ça. Et les principes des photogrammes, c'est de mettre des feuilles photosensibles et de mettre des objets sur... en prenant des images sans passer par l'appareil photo de captation. Il y a ça, que c'est un essai plus ancien, du 19e siècle. Il y a Mon Ray, que c'est très important. C'est beaucoup plus figuratif, et tout ça, lié à des démarches surréalistes, tout ça. Bon, il y a toute une explication là, je ne vais pas passer partout. Et il y a Mohol Nagy qui en fait oui le Mohol Nagy qui en fait qui va vraiment loin dans les sens abstraits, il va faire créer des formes, il va superposer des images, il va, parce que c'est ça, il a vraiment horreur à tout ce qui ont produit dans les sens des ressemblances en fait. Je pense que c'est les pièges, je peux dire, artistiques. Alors, il y a Mohol Nagy, il est très important pour la défense, vraiment, de cette image lumière, et, à cause de ses écrits, en fait, et aussi des expériences qu'il fait avec les photogrammes, mais aussi avec l'image filmique, l'image cinématographique, je peux dire. Et il va travailler dans... Ah bon, ça, c'est encore Mon Ray, c'est... Bonjour.
Carole, les radiogrammes de Anna Atkins, c'est ça? Anna Atkins qui faisait des radiogrammes comme ça, c'est comme ça que ça se dit? C'était très vieux, elle faisait des radiogrammes de plantes.
Oui.
En fait, elle n'était pas considérée comme une photographe, et quelques temps après Mon Ray, c'est devenu une photographe, en fait, tout son travail. Qui est,
ah, ok.
C'est marrant, c'est un truc de sauvegarde qui est devenu après.
Oui, ok. Ah, si j'oublie. Alors, Mohol Nagy, il a construit aussi une sculpture, en fait. C'est cet modulateur, en fait, il appelait modulateur espace lumière, qu'il y a tout un jeu d'interaction. En fait, c'est cette machine, c'est vraiment une machine, elle bouge dans tous les sens. Il y a plusieurs filtres, manière de filtrer la lumière, de projeter. Et c'est vraiment une sorte de machine à construire des lumières et ombres, en fait. C'est très beau qu'on voit en fonctionnement. Et en fait, après ça, il a fait aussi un film sur son sculpture. Alors, il y a plusieurs couches dans les travaux d'interaction, vraiment, de la lumière et la matière. Et par exemple dans ses films, il va non seulement filmer son sculpture qui est en train de bouger, il produit ses jeux de lumière et ombre dans un espace, comme aussi il va faire des superpositions dans son film. Alors vous voyez des choses qui, des interactions des lumières et ombres qui, c'est même difficile de trouver d'origine en fait. Dans le sens, l'image devient tellement abstraite que c'est... Bon. ça.
Quelle année c'est,
pardon? Les sculptures.
Oui.
30, oui. Non, eh oui, ça, la sculpture, c'est 30.
30.
Oui. Bon, ça, je ne vais pas retenir, c'est Monray, il l'informe en fait. Il a aussi Brancusi, et en fait, cette dernière partie de l'idée d'inscription, c'est aussi de voir comment les images techniques, en fait, qui font cette inscription de la lumière de façon automatique, si on peut dire, comment ils vont interagir avec comme je peux dire, des milieux classiques, des disciplines classiques des arts, en fait, la sculpture, par exemple. Et Brancusi, c'est un bon exemple, parce qu'il voulait faire ces sculptures, des surfaces, en fait, des réfléchissantes de la lumière. Il avait toujours en tête cette idée. Et pour voir vraiment l'efficacité, si je peux dire, et la capacité de son sculpture à réfléchir la lumière, à interagir avec la lumière, il filmait ses sculptures pour voir s'il avait arrivé jusqu'au bout. Sinon, il revenait sur les sculptures, de façon polie, jusqu'à arriver à ce qu'il voulait. Alors. Derrière tout ça, bon, ça c'est un des films qu'il fait, blablabla, bon, ça se passe. Et alors, ça c'est la troisième partie. Ah ouais.
Qu'est-ce que je veux,
ouais. La troisième partie, en fait, c'est sur la projection. Et la projection, je pense que c'est si je peux dire, c'est l'interaction, la participation de la lumière au cinéma qui a plus des charges sentimentales, si je peux dire. On a plusieurs, après je vais montrer, mais j'ai trouvé pas mal des descriptions des philosophes ou des... historien d'art qui raconte un peu l'expérience à la salle de cinéma et toujours cette lumière qui traverse tout l'ombre et arrive et se pose sur l'écran et tout ça. Et bon, il y a ça, mais il y a aussi en fait une participation très forte, à mon avis, dans les sens, dans les œuvres contemporaines, en fait, contemporaines, et dans les sens même de l'utilisation de la lumière, soit du dispositif vraiment des projections cinématographiques, comme si, par exemple, McCall, qui va utiliser vraiment les projecteurs cinéma, il va créer son sculpture, l'icône. Et en fait, c'est ça, c'est juste cet tunnel en fait, qu'il crée dans l'espace. Il y a aussi Zinfor Fion, c'est de Nanjun Paik, et en fait, c'est juste la projection des pellicules vierges. Alors, on voit juste des blancs sur les murs. Et bon, c'est ça, j'ai reviens un peu sur cette idée de l'architecture des salles obscures, quelques témoignages comme Humbert Damiche, par exemple, qui va raconter son expérience avec les cinémas, etc. Et bon, ça c'est une photo des... Bon, je ne sais pas si je vais m'arrêter ici parce que oui, c'est un peu lourd d'expliquer comme ça, mais je vais plutôt passer juste pour montrer des exemples. Ah, ça c'est bien. Et, en fait, c'est oui. En fait, non seulement cette Ah ouais. Et ça, c'est Relâche, en fait, c'est une expérience avec la lumière. C'est pas exactement une projection, mais c'est la lumière. Parce que c'est ça, dans ce chapitre, j'essaye de faire la liaison entre projection, l'idée des projections, mais surtout des présences, présence matérielle de la lumière. Et penser à des œuvres qui travaillent la lumière en tant que médium principal, en fait, les supports principaux. Et un des exemples, c'est Picabia, les décors qu'il a fait pour Relâche, en fait, en 1924. Et vous imaginez comment ça, c'était incroyable, parce que c'était tout des spots de lumière là. Et dans un moment donné, tout ça s'allumait, les gens étaient complètement aveugles. Et c'est incroyable. Il y a des descriptions sur ça que c'était vraiment frappant, en fait.
C'est que des projecteurs?
Oui, en fait,
c'est... Public, comme ça.
Oui, oui, ce sont des spots de lumière très forts, en fait.
C'est la vraie expérience à la lumière.
Oh oui, exact. D'imprégnation de la lumière.
C'est solaire.
Oui.
C'est vraiment une idée, en fait.
Oui, mais
Et bon, je passe pas d'autres comme Eliotzig, en fait, qui a cette interaction aussi des projections, des images. Ce qui s'appelle les autres s'appellent Cosmocorca. Et il y a plusieurs dispositions d'images là. Et puis Plotris, en fait, c'est une projection au centre Pompidou, que c'est incroyable aussi, immense. Et Dans Flavin, je pense aussi que c'est un autre exemple important, en fait, de travailler avec la lumière. Il y a un autre ouvrage, lui, là aussi. Bruce Naum, aussi, qui a fait pas mal de choses aussi avec la lumière, ça aussi. Et James Strook, je pense que c'est l'exemple le plus fort. Contemporain dans le sens de l'utilisation de la lumière, des créations d'espaces avec la lumière, d'imprégnation surtout, cette idée un peu de la lumière qui occupe, qui crée une sorte de désordre, cet espace crée des trous dans notre dimension, notre manière vraiment de s'apercevoir de l'espace. Il y a même cette selle là. Vous entrez là et vous faites l'expérience complète de lumière. C'est presque une chose de futuriste.
À Brooklyn, au PS1, il y avait une pièce dans le musée où tu as une. En fait, il n'y a pas de toit.
Oui.
Et donc tu rentres dans la pièce, mais tu ne te rends pas compte tout de suite si c'est un écran. Là, ouais. Et tu as juste le ciel en fait. Et tu t'assois et tu regardes. Et l'œuvre en fait, c'est le vrai ciel, mais comme tu es à l'intérieur d'un bâtiment,
c'est
complètement dérangeant. Vraiment, tu mets longtemps à te dire. Et tu sens qu'en fait, oui, c'est l'air. Et donc, mais t'es pas dehors parce que c'est le toit. Et en fait, l'œuvre, bah, c'est le ciel que t'as, tu as
ouais,
au ouais.
Ouais.
Et je pense que c'est par moment. Enfin, je sais pas en plus comment ils font. Quoi. C'est très bizarre, mais ils doivent pouvoir le
couvrir.
Et en fait, effectivement, ça te fait une expérience. Pas comme quand t'es dehors, parce que ça crée une distance.
Oui, oui. Une sorte d'observation, une distance. Bon, c'est tout en fait. C'est fini. Si vous avez des questions. Oui, en fait, c'est ça. Jusqu'à la fin, je les ai dit qu'en fait, c'est ça qu'on a. Si j'ai pu dire pour faire vite, en fait, c'est ça. Giacomo, il est en train de dire que le cinéma est né, il naît tout le temps à partir de cette interaction entre matière et lumière, parce qu'en fait, il fait écho en fait à une sorte de régime, si je peux dire, de l'image lumière qui a survécu en fait pendant presque tous les 20e siècle, si on peut ça. Et mon hypothèse est un peu ça, il a survécu parce qu'en fait, il était attribué, il était vinculé à une sorte d'utopie liée à cette image abstraite et lumineuse. Et c'est ça. Ouais. Bon, si vous avez des questions.
Voilà, dans la deuxième partie, il n'y a plus de verre. Enfin, tu parles du verre en première partie.
Oui.
En deuxième partie, tu parles de la, du support, comment rattraper la lumière. Ça veut ça. Et en troisième partie, c'est sans support, quoi, ta lumière un peu.
Oui, oui, c'est un peu, captation, filtrage, inscription, et projection. Mais projection dans ce sens de la présence matérielle de la lumière. Parce que comme dans Flave, par exemple, c'est, il utilise la lumière comme, comme support principal de ses œuvres, tu vois. Ouais, c'est un peu ça.
Bon, je sais pas, il y a, tout le monde a des références, mais il y a, dans les vitraux, là, il y a Soulage aussi, je sais pas si t'en as pas parlé, quoi, je sais pas si t'as mis une image de lui, si t'en parles, mais qui a fait des vitraux pour une église, et c'est noir, en fait. Ça, c'est un peintre qui fait des peintures noires, et il cherche toujours la couleur noire parfaite, quoi.
Ouais.
Et je sais pas si t'as déjà vu ce travail-là.
Non.
Faut voir, je te montre.
Oui.
C'est, en fait, il fait l'assemblage de toutes les couleurs, en fait. Et toutes les couleurs vont faire du noir, et du coup, bah, normalement, non. En lumière, non. Mais en tout cas, ouais, il travaille ce noir-là.
Oui.
Et il a fait des vitraux pour une église. Tous les vitraux sont noirs, en fait, translucides un peu, mais
oui.
C'est intéressant, ça, pour cette question de lumière qui traverse ou pas, quoi.
Oui. En fait, il y a ça, il y a, je peux dire, avec les rénovaux vitrales, en fait, tu as premièrement cette idée, comme je dis, de faire la conservation de ce qu'il avait, on faisait à nouveau, mais avec les mêmes thèmes, en fait, les mêmes... et après, on commence à utiliser des images en fait des peintres modernes, mais seulement à 1920-30 près on commence vraiment à travailler le vitral en tant que les supports principaux, dans le sens qu'on conçoit par l'image et après on reproduit sur les vitrales. Mais on pense les vitrales dans son interaction exactement des modulations de la lumière et tout ça, comme je peux dire, origine de l'image qui va être créée, en fait. C'est un peu ça. Les choix viennent à partir de la confrontation avec l'art vitral, vraiment. Mais ça, c'est quelque chose qui se passe, par exemple, avec Matisse. Il a toute une conception de l'image à partir qu'on va faire à son vitral. Il va vraiment penser à cette interaction entre lumière et verre, et couleur aussi.
Et... Il fait un peu avec le collage, d'ailleurs. C'est assez proche aussi du travail de collage, de recréer de l'image par de l'assemblage de choses qui s'opposent, mais qui créent des formes.
Oui. Non, il y a, il utilise même l'idée qu'il utilise pour ses collages, c'est dessiner avec les couteaux, en fait. C'est cette idée des coupures, des images qui sont faites avec des coupures un peu serrées.
Et je trouve, je sais pas si... Mais qu'en fait, quand tu parlais aussi justement des industriels et du début de ça, il y a un peu un côté de... En plus de la modernité, de la maîtrise technique de l'homme sur la nature. Et fait, avec le verre et le fait de savoir créer des bâtiments à partir du verre, il y a un peu savoir recréer la lumière, en fait, d'une certaine manière. Parce que du coup, tu as à l'intérieur de la lumière, parce que tu as du verre et que tu sais reproduire. Et c'est presque. Enfin, je trouvais qu'il y avait presque un côté comme quand tu as la maîtrise du feu, où tu arrives à créer la lumière.
Ben
là, c'est par le progrès technique, mais il y a un côté où on réussit à recréer la nature, en fait, à être vraiment sur la domination de l'homme sur la nature, à la fois par la lumière que tu crées par le verre, en gros, et aussi même le fait d'ensuite savoir dans le cinéma, dans la photo ou dans l'électricité.
Ah oui,
et de recréer la lumière, c'est vraiment ce truc de l'homme, c'est un peu le mythe du feu, de l'homme qui a maîtrisé le feu, mais reproduit version modernité.
Non, mais tu as tout à fait raison.
Et dans l'industrie, il y a vachement ça, ce côté des grands bâtiments comme ça, où c'est on arrive à refaire.
Et toujours cette idée un peu qu'on n'arrive pas à maîtriser complètement, en fait. Parce que même dans les œuvres plus modernes, en fait, il y a toujours cette question de la lumière est quelque chose d'éphémère, tu vois, une apparition pas maîtrisable, tu vois. il a toujours cette côté un peu hors hors mon
nature quoi. Ouais.
Ah oui oui, c'est un nature, peu ça, c'est un, quelque chose qui s'impose. Et bien sûr, on arrive à interagir, mais
oui, une projection quand même.
Oui oui. Oui oui. Oui oui. Oui oui. Oui.
C'est étrange aussi quand tu parles de la projection, du coup, dans la dernière partie, j'ai vu 72 là, les installations. Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans l'époque de la projection, tu vois, de la lumière, on parle beaucoup de ça en ce moment, et que c'est aujourd'hui en fait. Mais en fait, on est bloqué maintenant quand même. On n'a pas bougé quoi, depuis le tunnel de lumière qui était dans 72.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
On
croit
Ouais, à l'art général, c'est vrai.
Depuis l'art conceptuel, il n'y a rien à mettre plus.
Mais la lumière, tu vois, je pensais vraiment pas que ça était si tôt déjà. Pour la projection, surtout.
Ouais, oui.
Mais oui, il y a longtemps.
De quoi ?
Mon âme qui
les déchirait. Il a parlé, ça ?
Il a fait une remarque.
Non ?
Ah ouais.
Oui, bon, on va.
Oui, oui.
Ok. Ça fait peur, ça fait peur.
Ouais.
C'est pas qu'il y a mon âme qui l'a déchiré un peu ça. Un peu ce câble aussi. Ah, ça se
met à faire des merveilles.
C'est rempli de ça.
Il y a de la place ici, hein.